23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
On garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balanceman, cadenceman, trace la classe, c'est le bon man.
Et allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
Ouh. Oh. Là.
Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mets un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
Bonjour et bienvenue bande de losers et de loseuses, bienvenue dans la 23e émission de Gaulle Volant, l'émission sport et société. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va vivre une émission évidemment passionnante, hein, comme à chaque fois, mais qui ravivera peut-être des souvenirs traumatisants de vos vies, car aujourd'hui on parle de la défaite. Attention. C'est peut-être l'occasion pour vous de faire le bilan de votre saison de tennis avec votre taux de défaite qui s'élève tout de même à 87%.
Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
En écoutant, vous repenserez peut-être à cette partie de Scrabble d'avril 96 face à Jean-Louis qui vous avait laminé avec le mot « humilié ». Scrabble, H sur lettre compte double, mot compte triple, 98 points. En même temps, il avait tout le temps les bonnes lettres.
La chatte qu'il a, la chatte.
Probablement revivrez-vous cette défaite l'été dernier, en finale du tournoi de ping-pong familial bisannuel, face à votre belle-sœur Solange 22-24. Et cette partie de pétanque, au camping où vous meniez 12-10, où cet abruti de Christophe n'a pas été foutu de finir, alors qu'il avait un boulevard pour la placer, putain, surtout que Steph et Béa n'avaient plus de boules, et qu'il en avait encore deux, lui, hein. Et cette course de relais en cours de gym lors du second trimestre de cinquième, quand Julien Chevalier avait mordu dans le dernier virage pour vous doubler, et que le prof, Monsieur Leroux, vous avait foutu une heure de colle pour l'avoir traité de bigleu et d'incompétent, mais il avait mordu, putain! En plus, il avait déjà triché à l'élection de délégué en offrant des nuts et des dragibus aux deux cons, dont je me souviens même plus le nom, pour qu'ils votent pour lui. Ça s'était joué à une voix, une seule voix. Et en 82, Schumacher, il devait être expulsé, il avait assassiné Batiston. Assassin! Ordure, assassin! Bien, vous voyez, nous, chez Gaulle Volant, on entretient un rapport sain à la défaite.
Ça va mieux, je veux dire.
ça va. Mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on peut péter les plombs quand on perd? Que faut-il faire? Éviter les compétitions où l'on pourrait perdre? Ou alors insister et cultiver la haine de la défaite? De la défaite, que revendiquent nombre de sportifs et de sportives. Peut-on bien perdre? Et faut-il un bon gagnant pour avoir un bon perdant? Y a-t-il de belles défaites? Pour répondre à toutes ces questions, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons réuni une belle équipe de perdants en studio. Voyons un peu qui compose l'équipe du jour.
Qui c'est qui est là?
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Jolie brochette.
Et donc, avec nous... aujourd'hui, en studio, pour parler de la défaite, Maël. Salut Maël.
Salut à tous.
Alors, de quoi tu vas parler, toi, Maël?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un oxymore, plus précisément, de moi et de la défaite.
Ok, ça reste à prouver ça. Mathieu est avec nous à la fois, il va parler mais aussi il s'occupe de la technique. Salut Mathieu.
Ouais, il va techniquer et puis il va essayer de vous cultiver et de vous divertir.
Attends, il se fixe beaucoup d'objectifs
beaucoup,
quand même.
Beaucoup pour vous.
C'est peut-être trop. Le philosophe, Alban.
Salut
Alban.
Salut Jérôme, salut à tous.
Alors de quoi tu vas parler toi aujourd'hui?
De défaite et plus particulièrement du travail du négatif de Hegel, un concept philosophique de Hegel appliqué à la défaite sportive.
On tout compte sur toi pour nous expliquer ça,
voilà, c'est ça.
Clairement.
On va essayer.
Bien, on va commencer tout de suite avec Maël.
Bon ben, pour tout vous dire, je trouve ça assez bizarre de me proposer à moi de participer à une émission de radio sur la défaite dans le sport. Franchement. On proposerait à Jean-Marie Le Pen de causer de l'amitié entre les peuples et du vivre ensemble. À Depardieu de s'exprimer sur le consentement et la finesse. À Benjamin Netanyahou de juger la qualité de l'humour de Guillaume Meurice. À Mathieu de parler de sport. Ah, merde, oh,
ah
merde.
Oui, ça j'essaye quand même.
Bon, Est-ce qu'on inviterait le Rassemblement National à assister à la panthéonisation d'un résistant étranger communiste? Ah merde. à Rachida Dati de s'exprimer sur la culture. Oh putain, bon allez, vraiment, on peut faire n'importe quoi, alors vas-y, je vais parler de la défaite. Parce que bon, quand même, moi, la défaite, c'est pas mon rayon, hein. Je suis pas franchement calé. J'y crois, si tu veux, mais je suis pas pratiquant. La preuve, la dernière fois que j'ai perdu, c'était en 94. J'avais 6 ans, à Rospez, dans les Côtes d'Armor, et c'était au puissance 4. Faut dire qu'elle était balèze, ma grand-mère. Mais depuis, que dalle, rien, nada, pot de balle, que de chi, walou, enfin, que je me souvienne. Hein. Faut dire que j'ai peut-être la mémoire sélective, mais bon, quand même. Palmarès éloquent, on voyait plus tôt. Médaille d'or, en 96, au meeting de judo de Gazélec, à Ploufragan. Deuxième à la course de billes, organisée par Gilou. Gilou, c'est le père de mon copain Manu, à la plage d'Étaples-sur-Mer, en juillet 97.
Avec un plateau relevé, on imagine.
Ah, carrément. Ça finissait par un vélodrome. Formidable. Deuxième du 10 km de course à pied de Quintin dans ma catégorie en 2003. Il faut dire qu'on était au moins 4 dans la compétition. Gagnant du tournoi de billard à la cafette du lycée Rabelais en 2006. Coupe du Conseil Général en 2012, j'en ai déjà parlé. Et l'été dernier, j'ai même gagné la plupart de mes matchs de fléchettes dans mon jardin. Alors, c'est pour vous dire. Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai gagné contre ma fille au Shifumi. Alors, vraiment, c'est pas mon rien. Mais bon, voilà, comme disait Coubertin... L'important, c'est de participer, gna gna gna, mais plot Charlotte, bref, la défaite, moi, je connais pas. Mais bon, là, je parle en tant qu'acteur, hein, parce que côté spectateur, là, je dois dire que je vois le délire. Pour vous dire, je suis né dans le 22, donc supporter de l'Andre à Guingamp. Niveau ratio victoire-défaite, ça doit pas être folichon dans ces 3 dernières années. Suiveur enflammé de Thibaut Pinot, qui m'a fait vibrer en chialer, mais j'aurais aimé le voir en jaune juste un jour. Petit-fils acharné d'un acharné de Poulidor, l'éternel second. 4 podiums de championnat du monde, le Poupou, jamais sur la plus haute marche. Fan de Socrates qui perd la Coupe du Monde de 82 alors qu'ils ont la plus belle équipe. Un joueur avec une classe de dingue, il se fait éliminer par une équipe d'Italie qui manie le fameux Catenaccio dégueulasse.
Mais t'étais pas né?
Ouais, mais je l'ai revu et re-revu. D'ailleurs, je vous conseille un excellent docu, Les Beaux Perdants, sur cette Coupe du Monde. Avec à la fois le Brésil donc, mais aussi l'équipe de France avec son fameux carré magique. Platini, Gires, Tigana et Fernandez qui se font sortir par la non moins dégueulasse équipe d'Allemagne. Jérôme en a parlé tout à l'heure. Donc, fan de Socrates, je disais, spectateur enthousiaste du 15 de France, on se rappelle de la dernière Coupe du Monde. Et je suis même fils de militant socialiste. Alors du coup, la victoire et la défaite, j'en ai vu un sacré paquet quand même. Mais je crois qu'elles font partie intégrante de mon amour pour le sport. Dans l'histoire d'une équipe, la défaite marque presque autant que les victoires. L'histoire d'amour qui se crée entre un club ou un sportif et son public doit passer par là. L'amour naît, je cite, « L'amour naît des meilleurs et des plus beaux moments, mais il grandit dans les pires défaites. » Cherchez pas sur internet, hein, elle est de moi celle-là.
Ah oui.
Comment s'enflammer pour ces équipes où la victoire devient la norme, régulière, attendue, où les défaites ou les défaillances sont anormales et inexcusables, et donc tellement relativement rares. Je pense à ces clubs devenus ternes et sans âme comme le PSG dans le football français, mais aussi à l'équipe UAE avec le cycliste Pogacar. Jérôme n'est pas d'accord, mais on pourra en reparler. qui gagne tout le temps, ou l'équipe US de basket. La faute sans doute à l'argent roi qui coule à flot et qui du coup exige un retour sur investissement, un rendement, une sécurité, ce qui va totalement à l'opposé de l'incertitude du sport que nous adorons tous et qui en est l'essence, ce qui lui donne tout son sel. Après, c'est peut-être mon côté gaulois réfractaire qui aime le goût amer de la défaite et des perdants, mais ce goût et ce sentiment permettent de savourer davantage celui de la victoire qui vient après. C'est la défaite de la semaine précédente qui permet de s'enflammer pour une victoire 1-0 arrachée à la dernière minute contre Louhans-Cuiseaux ou pour un bon match nul des familles contre les Stacks.
Louhans-Cuiseaux.
Bref, pour savourer les victoires, j'en conviens, la défaite est nécessaire, mais attention, hein, avec modération, et la modération, ça me connaît. Ouais. Pour terminer, le grand Johan Cruyff disait « Il vaut mieux perdre avec ses idées qu'avec celles des autres. » Moi, je rajoute « Vaut mieux quand même gagner. »
Bien, merci Maël. Hein. Oui, effectivement, une mémoire quand même relativement sélective. Il me semble avoir participé à des défaites en ta compagnie. Il me semble que ça a dû arriver.
Un temps soit peu.
Bien, eh ben justement, alors tu vas peut-être être embêté pour répondre à la première question de débat qu'on va se, voilà, autour de laquelle on se réunit.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est vous. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est.
Non, je ne le calmerai pas.
C'est pas vous qui posez les questions, et c'est pas vous qui donnez les notes.
Alors la question qu'on se pose là pour commencer, c'est un peu, voilà, est-ce qu'il y a des défaites qui peuvent être marquantes, qui peuvent être peut-être belles, mais avant tout, voilà, des défaites marquantes. Alors Maëlle en a un peu parlé du côté spectateur, on va s'intéresser peut-être au côté pratiquant. Alors je ne sais pas si autour de la table, certains ont des défaites marquantes en tant que pratiquant.
Oui, je veux bien prendre la parole. Ouais, bah, d'abord, je voulais rebondir sur la chronique de mon camarade. C'est-à-dire que,
c'est sûr, ça
oui. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on aime une équipe aussi par ses défaites, autant bien par sûr. Ses défaites que par ses victoires. Je dirais que c'est la même chose pour les êtres humains, finalement. On aime autant les qualités que parfois les défauts ou les fragilités d'un être humain. Et que, voilà, je souscris complètement à ce que tu disais, Maëlle.
Tu veux donc dire qu'on aime Maëlle pour ses défauts?
Aussi.
Principalement.
Et ses défaites.
Je connais pas.
Et bah, du coup, pour revenir à la question de débat, ouais, bah, des défaites marquantes, je pense, c'est quand même des défaites dans lesquelles on sent qu'on a quand même gagné quelque chose, quoi. Enfin, il y a des victoires qui s'attachent à certaines défaites. Moi, je pense, j'ai joué à l'An Avant de Guingamp, club que tu as cité auparavant, et je me souviens, c'était il y a très longtemps, j'avais 14 ans, et on avait perdu 3-2 contre le Stade Rennais, qui était le géant de l'époque. Ouais. Et en fait, c'était une défaite qui avait un goût de victoire parce qu'on avait gagné quelque chose. C'était déjà l'estime de nos adversaires qui, au début, nous prenaient pour des cons. Et puis, une
pour
deuxième
les paysans.
Chose, ouais, pour les paysans. Et déjà. Une deuxième chose, c'était une sorte de victoire vis-à-vis de nous-mêmes. On s'était un peu délesté de nos complexes face aux Rennais. Et donc, voilà, je crois qu'il y a des défaites qui ont des goûts de victoire.
Ouais. Bah, aussi, de par la position que tu vas occuper avant une rencontre, moi, je pense qu'il y a des défaites au tennis face à des adversaires. Je me suis dit, je vais me prendre une énorme branlée et qui suffit.
Et finalement, tu prends juste une petite branlée.
Une petite branlée. Ouais. Alors, quand même, une petite branlée.
Oui, bien sûr.
Mais oui, selon le statut avec lequel tu arrives, la défaite peut avoir différentes formes.
C'est ça. C'est un fait complexe, on va dire. Tu peux être défait, mais avoir vaincu quelque part, quelque chose. Quoi.
Oui, oui. Voilà. Ouais,
ouais. Et moi, dans mes souvenirs, je pense aussi à ces défaites, mais aussi celles qui m'ont marqué le plus, c'est celles qui sont injustes, où là où on aurait dû gagner, il y a eu un fait de jeu, un arbitre qui a sans doute déconné, ou un prof de sport qui était myope, astigmate, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, on aurait dû gagner, on est passé à ça, mais on a quand même perdu.
Y a des défaites qui sont très marquantes et très liées effectivement à l'injustice.
Complètement.
Comme des victoires aussi sont liées à l'injustice. Je reparle de la main de Thierry Henry qui qualifie la France pour aller à la Coupe du Monde. C'est une victoire qui est marquée du sceau de
mais est-ce que c'est une victoire ou une défaite d'ailleurs?
J'ai trouvé que ça aurait été une très belle défaite si Henry avait dit...
Ouais, c'est une victoire, mais qui annonce une défaite.
Oui, oui. Oui, en plus, qui annonce le scandale de Nice en 2010. Ouais, moi, j'ai une expérience d'une défaite particulière en tant que supporter. Je m'étais rendu donc, en 97 à la finale de la Coupe de France Guingamp-Nice au Parc des Princes. On avait fait 5 heures de route. Je n'étais pas très supporter, mais on avait fait 5 heures de route dans la bagnole. Je trouvais ça long. On attendait avant dans le stade et je me suis... un peu auto-centré. J'étais jeune, j'avais 10 ans à ce moment-là. Alors, encore plus à cette époque-là.
Encore plus.
J'étais persuadé que tous ces efforts faisaient qu'on allait forcément gagner.
Ouais.
Et quand la défaite était arrivée, je crois que je...
C'est pas possible.
En fait, je crois que j'avais peut-être arrêté de croire que le monde tournait autour de moi. Vraiment, c'était long comme journée. C'était un peu pénible par moment. Et en plus, on peut avoir la défaite parce que Guingamp avait perdu face à Nice.
Mais est-ce que tu veux nous dire que tu as perdu la foi à ce moment-là?
Je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui s'est joué. Mais presque une expérience dans la défaite où j'ai l'impression que tout se goupillait. Je sais pas. Je sais pas si vous avez cette sensation étant jeune, comme un peu d'être dans le Truman Show. Tout est fait pour votre existence. Et là, d'un coup, si c'était fait pour votre existence, il ne devrait pas y avoir cette défaite.
Alors je citerai juste Lacan qui dit le
pourquoi
réel
pas.
C'est quand on se cogne.
Ouais.
Je pense que c'est peut-être ta première expérience du réel.
Je crois qu'il y a quelque chose comme ça.
Des premières.
Il y a quelque chose d'une défaite, de quelque chose de désagréable après un trajet en voiture qui s'était bien passé, mais qui
Tout ne s'était pas passé comme ça aurait dû se passer.
Non, mais effectivement, en tout cas, c'est presque une perte de foi. Mmh. Effectivement. Bien. On s'arrête là pour ce premier moment de discussion.
Ça marche.
On va faire une petite pause. On va écouter Dionysos, qui n'est pas un groupe que je chéris particulièrement, mais qui a signé une chanson sur McEnroe, qui était quand même un des perdants les plus spectaculaires du tennis. C'était Dionysos, McEnroe's Poetry, donc un hommage à cet irascible perdant qui était McEnroe, qui était aussi irascible dans la victoire d'ailleurs, qui était toujours assez insupportable. Vous écoutez Gaulle Volant, aujourd'hui on vous parle de la défaite et c'est l'heure du conseil culturel.
Le conseil culturel de Gaulle Volant.
Le conseil culturel.
Le conseil.
Une fois n'est pas coutume pour ce conseil culturel, je vais vous parler d'un bouquin. Un vrai bouquin, hein, pas ce dont raffole et nous rabâche Jérôme dès qu'il fait un conseil cul. Donc pas de BD aujourd'hui, mais la Rolls du bouquin, puisqu'il ne s'agit rien de moins que d'une Bible. Est-ce que vous connaissez la FFL ? Alors non, c'est pas la Fédération Française de Lutte, elle c'est la FFL-DA, Lutte et Discipline Associée. La FFL, c'est la Fédération Française de la Loose, et elle n'est pas reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est apparue il y a une dizaine d'années, sous la forme d'un compte Twitter, créé par une bande de potes préférant célébrer les échecs et les ratés, plutôt que les victoires et les exploits. Le tout avec une bonne dose de mauvaise foi et d'autodérision. Jusqu'à se rendre compte que tout cela valait bien une anthologie, une Bible, celle de la défaite à la française. Et de là est née cette Bible de la Loose du sport français, parue en 2021 aux éditions Marabout. Les auteurs nous y expliquent que la France a toujours eu un rapport spécial avec la défaite. Et c'est vrai que de notre poupou éternel second, aux Français à Roland-Garros, en passant par les poteaux carrés de Glasgow en 76, ou encore la remontada du Barça face au PSG, si puissante que le mot en est entré dans le dictionnaire, les tragédies sportives et les perdants magnifiques occupent une place bien à part dans le cœur des Français. Il suffit d'ailleurs de prononcer les mots « Séville » et « 1982 » et tout le monde comprendra. Alors on notera au passage qu'il y a quand même des sports bien spécifiques qui prédominent dans ce faux panthéon de la Houlouse, signe que les Français devraient peut-être se concentrer sur d'autres disciplines que le foot, le tennis ou le cyclisme. Et justement, en parlant de cyclisme, qui de mieux pour signer la préface de ce bouquin consacré à la défaite et à la loose à la française ?
Thibaut Pinot.
Thibaut.
Notre Thibaut Pinot national, notre pouli d'or des temps modernes, celui qui hante les nuits estivales de notre chroniqueur Simon.
Allez, allez Thibaut, c'est maintenant, faut y aller. Je suis en transe, je gueule comme un putois. Oui Thibaut, comme un grand bordel de merde. Thibaut arrache ses oreillettes et se coupe volontairement de son directeur sportif. T'as raison mon Thibaut, on s'en bat les couilles des oreillettes. J'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid. Attaque de Thibaut Pinot qui gueule à la télé. Oui, oui, allez. Ça y est, je chiale.
Alors je résiste à l'envie de vous proposer un extrait de sa préface à Thibaut Pinot, à l'image de la classe internationale de ce grand homme.
Il est évident que l'humour et l'autodérision sont les deux remèdes les plus efficaces pour digérer les grandes déceptions que j'ai vécues. Quoi qu'on en dise, cela ne reste que du sport. Il faut garder cela en tête, relativiser au maximum, savoir qu'il y a plus grave dans la vie. Il est possible que, avec moins de poisse, je serai un peu moins populaire aujourd'hui.
Oh la vache, il a pris cher Pinot depuis qu'il s'est remis.
J'ai l'impression que c'est une mentalité très française de s'attacher à des sportifs ou des clubs qui ont des hauts et des très bas.
Bon, en l'occurrence, lui-là, il parle du PSG. Moi, je pencherais peut-être un peu plus pour le Stade Rennais, ça lui correspond tout à fait. Mais en tout cas, ce que dit Pinot est à l'image de ce que veut montrer ce bouquin. La défaite à la française, elle a de la gueule. C'est la défaite avec panache, avec romantisme. La défaite frustrante qui tue un magnifique espoir entreaperçu et qui génère bien trop souvent une cruelle désillusion. Mais finalement, ce sont de ces défaites dont on se souvient et dont on parle plus longtemps que les victoires. Celles qui font de leurs héros malheureux des losers magnifiques. Car oui, chez nous, la compétition fabrique plus de perdants magnifiques que de vainqueurs arrogants. Mention spéciale pour la frise chronologique de la loose qui accompagne cette Bible, frise qui démarre en 52 avant Jésus-Christ avec la défaite de l'AS Montferrand-Arverne de Vercingétorix face aux Romains de Jules César et qui se termine à la date fatidique du 13 juin 3022, le jour où, alors qu'un Français s'apprête à servir pour la balle de match à Roland-Garros et ainsi mettre fin à une disette de 1039 ans, la Terre est soudainement détruite par un astéroïde. Voilà, je vous invite donc à feuilleter ce beau bouquin qui, en plus de bons traits d'humour, contient aussi de très belles photos. Et je vous en reparle un peu en troisième mi-temps, puisqu'il m'a pas mal inspiré pour celle-ci.
Alors, vive la France, là, hein ! Peine sur peine, peine sur peine, hein ! En plein dans le vide !
Merci Mathieu pour ce conseil loose.
Ouais.
Un très beau conseil loose avec du Thibaut Pinot dedans.
Bah, c'était inévitable.
Bah oui, forcément.
Il parle pas de moi dans ce bouquin ?
Non.
Ah oui.
Bien, on va enchaîner, on va prendre un petit peu de hauteur et on va parler un petit peu de philosophie.
Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
Chez Nietzsche, la liberté doit se conquérir en quelque sorte contre les institutions, alors que chez Rousseau, elle doit être garantie par les institutions.
Ah ben voilà, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Alors, avant de parler de défaites sportives, laissez-moi vous parler tout d'abord d'un fabuleux concept philosophique, celui de dialectique. Mais pour cela, il nous faut faire un petit retour en arrière et remonter jusqu'aux origines de la philosophie. La philosophie occidentale trouve sa source dans une dualité, une rivalité, un match entre ces deux ancêtres que sont le brave Parménide et le vaillant Héraclite. Tout ça se passe au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand même, mais ce combat théorique n'a rien à envier à l'intensité d'un match très 90s Graf-Séles ou d'un Nadal-Federer des années 2000. D'un côté du cours, il y a d'abord Parménide, petit polo blanc rentré dans un short tout aussi immaculé, la mine concentrée, le corps droit, chantre d'une conception de l'être fixe, immuable et éternel. L'être est, le non-être n'est pas, et les vaches sont bien gardées. Le rigide Parménide est le grand-père de Platon et de son ciel des idées, mais il est aussi l'arrière-grand-père de tous les monothéismes, ainsi que de la loi morale kantienne. De l'autre côté du cours, look hippie avec bandana et short à fleurs. L'allure débonnaire et sautillante, il y a Héraclite, l'homme du devenir, celui pour lequel on ne se baigne jamais dans le même fleuve, même s'il n'y a que 2 secondes de décalage entre nos 2 plongeons. Héraclite, c'est celui pour qui l'être est fluidité, mouvement, passage continuel du même dans l'autre. À l'inverse de son rival Parménide, l'histrion Héraclite aura plus de mal à trouver des descendants. Alors vous pensez peut-être à Macron, chantre de la société fluide. Pourquoi pas ? Mais il y en a eu avant lui, et pas des moindres. Nietzsche, bien sûr, et sa théorie de l'éternel retour. Alors non, Nietzsche ne parle pas de tennis ici. Il y a aussi Karl Marx, évidemment, et sa théorie de la lutte des classes, comme moteur de l'histoire. Alors Karl, par contre, il paraît qu'il n'aimait pas trop le tennis. Je me demande pourquoi. Mais avant ces deux monstres sacrés, le premier héritier d'Héraclite, c'est ce bon vieux Hegel, théoricien du concept qui nous intéresse, à savoir celui de la dialectique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dialectique ? Je laisse provisoirement Olivier Tinlan, enseignant à la faculté de philosophie de Montpellier et accessoirement spécialiste de Hegel, vous la présenter succinctement.
La réalité est dialectique pour Hegel. Ça veut dire que cette réalité n'est pas simplement une collection d'existants, d'étangs qui sont là les uns à côté des autres, mais qu'elle est traversée par une forme de négativité. Les choses, pour Hegel, ne restent pas ce qu'elles sont. Ce sont des choses finies, et à ce titre, elles sont emportées au-delà d'elles-mêmes. Donc l'incarnation de la dialectique, hein, c'est le temps, et le temps sous son versant naturel et sous son versant humain, c'est-à-dire l'histoire. Toute chose est assujettie au temps, et à partir de là, est appelée justement à naître, croître, se développer et périr, par exemple. C'est une des versions de la dialectique. Mais de manière plus générale et dialectique, justement, un processus dans lequel une réalité va être amenée justement à nier ce qu'elle est immédiatement, à se transformer et à devenir autre chose.
C'était donc Olivier Tinlan, invité par Adèle Vendrette dans l'émission « Chemin de la philosophie » de France Culture. Alors, comme l'a souligné mon illustre collègue, la dialectique est un concept plutôt massif qui indique, à la manière d'Héraclite, que tout change. Mais en précisant la manière, tout change en se niant soi-même. Donc dans un processus d'auto-négation qui conduit à passer du même à l'autre. Alors, par exemple, la vie se nie elle-même depuis la naissance et à travers le vieillissement pour devenir son autre, à savoir se transformer dans la mort. Ainsi, la naissance et la mort sont les 2 pôles du processus du devenir autre de la vie, qui se pose, se nie et devient autre. De fait, tout se passe comme si chaque chose passait progressivement dans son contraire, à travers une transformation évolutive que Hegel appelle le travail du négatif. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En effet, la dialectique n'est pas binaire, ce n'est pas une danse à 2 temps, mais bien une danse à 3 temps. La dialectique n'est pas l'affaire d'une seule transformation, mais de 2. Après être passé dans son contraire, l'être se transforme enfin en une sorte de synthèse que Hegel appelle « Aufhebung », hein, c'est de l'allemand, qu'on pourrait penser à la manière d'une négation de la négation ou d'un dépassement de la contradiction. Reprenons l'exemple de la vie pour rendre les choses plus claires. La vie surgit par la naissance et la croissance, c'est le premier moment de la dialectique, se renverse dans la mort par un processus de vieillissement, c'est le second moment négatif, et le troisième moment, la négation de la négation, ce serait par exemple le souvenir. Mort, je revis néanmoins dans la mémoire de mes enfants ou de mes proches. Le souvenir nie en quelque sorte la mort, qui elle-même niait la vie. Il y a eu 2 négations, 2 transformations, le conte dialectique est bon. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu à ce niveau-là, mais on peut se demander comment ce concept de dialectique, de passage progressif et négatif du même dans l'autre, comment ce concept peut nous permettre de comprendre la notion de défaite, et plus particulièrement celle de défaite sportive. Eh bien, on peut penser que la défaite est en fait le moment du négatif, celui dans lequel le succès est nié. Dès lors, il nous faut distinguer la défaite et le simple échec. L'échec, c'est juste qu'on est moins bon, on se fait battre, c'est normal, on n'a plus qu'à filer sous la douche et on reviendra la prochaine fois. Il y a une logique admise par tous dans l'échec. Mais une défaite, c'est pas un simple échec, c'est autre chose. Une défaite, c'est une négation radicale, c'est un moment où vraiment, une réussite qui avait pris forme et qui se faisait sentir, un succès qui se laissait deviner, tout ce positif a été littéralement nié, détruit, décomposé, et ça fait mal. Dans le mot « défaite », il y a l'idée de défaire quelque chose qui avait été mis en place et qui avait commencé de réussir. La défaite n'est là que si toutes les conditions de la réussite sont présentes, mais que le succès escompté n'a pas été atteint. Bref, il faut sentir tout le négatif de l'histoire pour parler de défaite. Alors, avec cette nouvelle définition de la défaite, qu'est-ce qui peut bien être considéré comme une défaite sportive ? Alors, avez-vous des exemples ?
Tu nous prends vraiment.
Alors, je vais continuer. Je vais vous dire moi ce qui pour moi est l'exemple même de la défaite. Alors mon prisme footballistique m'amène directement à ce moment, sorte de trauma originel ou de scène primitive de toute une génération de footeux français, en l'occurrence notre génération, donc celle née footballistiquement dans les années 90.
Oh que j'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça.
Oh Rosenthal.
Oh que je n'aime pas ça. Oh que je n'aime pas ça.
Oh que je n'aime pas
ça. Oh que je n'aime pas ça.
Alors, en cette soirée automnale d'octobre 1993, Jean-Michel Larquet renoue avec la grande tradition de la poésie française en se fendant d'une anaphore mythique « Oh, que je n'aime pas ça !»« Oh, que je n'aime pas ça !» C'est que notre Jean-Mimi national l'a sans doute compris avant tout le monde. Ce but de l'équipe d'Israël qui crucifie la France dans les arrêts de jeu est un but qui porte la marque indélébile de la défaite, la vraie. Mais replantons le contexte. Le matin du match, le matin du 13 octobre 1993, tout semble aller pour le mieux pour l'équipe de France masculine de football. Portée par ses deux stars, Jean-Pierre Papin et Eric Cantona, coachée par un jeune entraîneur prometteur, Gérard Houllier, l'équipe de France est tranquillement installée en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde, qui se déroulera quelques mois plus tard au pays de l'oncle Sam. Deux malheureux points lui suffisent pour assurer la qualification. Et il reste encore deux matchs à disputer à domicile, qui plus est. Son premier adversaire, l'équipe d'Israël, est alors l'une des plus faibles équipes d'Europe et surtout, elle n'a pas gagné un seul de ses 7 matchs de qualification en encaissant la bagatelle de 21 buts. Tout est donc réuni pour que la France savoure sa qualification dès le soir même et personne n'envisage un autre scénario. Une boîte de nuit parisienne a déjà été réservée pour fêter le futur voyage aux USA et la sono du Parc des Princes crache des chansons au titre évocateur. L'Amérique de Joe Dassin, Born in the USA de Springsteen, ou encore la bande originale de West Side Story. N'en jetez plus. Or, ce qui devait ressembler à une promenade de santé va en réalité devenir, dans un processus en tout point dialectique, un véritable chemin de croix. Alors que tout semblait réussir à l'équipe de France, alors que l'Amérique se dessinait déjà à son horizon, elle s'écroule de manière pathétique. Quelques jours plus tard, le tragique entrera en scène avec la défaite face à la Bulgarie. Mais c'est comme si tout s'était déjà joué là, ce 13 octobre à Paris, dans les arrêts de jeu, en encaissant ce but israélien, comme si les Bleus avaient complètement lâché et décidé de nier leur propre réussite, ce succès qui leur tendait pourtant ouvertement les bras. Alors, si la défaite n'est pas l'échec, il nous faut aussi penser la victoire, en la distinguant de la simple réussite. La réussite, c'est le succès de celui qui a atteint ses objectifs, sans trop forcer, de manière sereine et naturelle. Mais la victoire, c'est autre chose. La victoire a le goût du sang et de la sueur, le goût de la peur du vide. Le mot « victoire » vient du latin « winco » qui signifie « surpasser », »,« venir à bout ». Dans la victoire, je surpasse une adversité forte, qui n'est pas présente dans la simple réussite. En fait, et pour reprendre le fil de ma démonstration, la victoire serait alors le troisième terme de la dialectique. Il y aurait d'abord la réussite, puis la défaite, et enfin la victoire. On pourrait voir dans la victoire la négation de la négation, c'est-à-dire la défaite niée. La victoire n'est pas un succès par hasard ou un succès spontané. La victoire n'est pas un simple succès, car c'est un succès qui est une forme de revanche. On nous croyait morts, on avait presque déjà perdu. Eh bien non, on a vaincu. En définitive, la victoire, c'est non seulement battre un adversaire qu'on croyait plus fort que nous, mais c'est d'abord et surtout une victoire sur le destin et sur soi-même. On surpasse la défaite qui était annoncée, qui avait commencé d'apparaître. On se fait plus fort que l'adversaire, mais plus encore, plus fort que la fatalité qui nous poussait à perdre, et plus fort que nous, qui avions déjà un peu perdu dans notre tête. Pour conclure cette réflexion, je vous laisse avec ce qui me paraît être l'expression même de la victoire, ou autrement dit, de la défaite surpassée, niée. Écoutez bien le commentaire de notre Patrick Montel national, car vous avez là un exemple vivant de ce qu'est la dialectique, le passage d'une chose en son contraire, ici la transformation progressive de la défaite en victoire.
Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi.
Ouais, Erzikova, Erzikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort les Russes et les Ukrainiennes.
La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas.
Eh ouais, ouais, c'est les trois favoris hein, devant.
Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne.
On ne revient pas donc.
C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant.
Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer.
Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique, la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer.
Elle revient, elle va réussir, elle va passer.
Les frissons.
Merci Alban. Surtout merci d'avoir fini sur ce 4x. C'était le 4x400 des mondiaux de 2014, il me semble.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, on voit là que c'est une défaite qui est complètement niée. Quoi.
Ouais, ouais.
Même
ouais.
Dans le commentaire, c'est ça que je trouvais. Ouais. C'est un vrai processus.
Quoi. Il l'a enterré avant la fin. Et,
c'est ça. Mais en même temps, objectivement, elle était enterrée.
Ah, bah complètement.
Ouais, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce super. Que c'est. Rien que rien entendre le son, moi j'ai des frissons.
J'ai les poils.
Ouais. Bien, bah merci Alban pour cette chronique.
De rien, de rien.
Alors, on va redescendre un peu quand même, parce que moi, je n'ai pas réussi à maintenir un niveau de langage identique au tien. On va parler un petit peu donc de la défaite. Toi, tu as parlé notamment de la douleur de la défaite. On va passer un petit extrait d'un entretien qu'on avait fait avec Claire Pontet à l'occasion de la Journée des Femmes. On a fait une émission. On vous passe un petit extrait.
De la même manière, on dit souvent que les filles n'aiment pas la compétition. Mais les filles, elles n'aiment surtout pas perdre. Enfin, je sais pas, personne n'aime jouer un jeu et savoir d'avance qu'il va perdre. Donc je pense qu'il faut inventer aussi des formes de rencontres plus festives, où on va faire des tournois où personne n'est éliminé, où le sport doit pouvoir se réinventer. On invente une façon de concevoir le sport qui permettrait de mieux faire pratiquer ensemble les garçons et les filles, ou les hommes et les femmes, parce que c'est pas seulement pour les enfants, ça. Je pense qu'on peut inventer des pratiques,
général, mises,
y compris pour les adultes, pour avoir des pratiques plus, à la fois compétitives et récréatives. On n'est pas obligé de tout caler sur le sport de haut niveau qui, lui, a ses propres codes, ses propres normes.
Bien, donc, le but un peu, là, c'est de s'interroger. Que faire de la défaite? En fait, là, Claire Pontet parle notamment... Alors, on rappelle qu'elle était formatrice...
À l'INSPE de Caen.
À l'INSPE de Caen.
Elle est agrégée d'EPS. Et, puis,
Et donc, il se posait un peu la question de que faire de cette défaite. Alors, voilà, elle propose notamment de changer les formes des rencontres. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez des pistes un peu?
Moi, ça me fait beaucoup penser justement au concours de boules que j'ai vécu enfant dans les Côtes d'Armor, où c'était... donc moi, j'y allais gamin, j'avais une dizaine d'années, contre des gens chevronnés, donc si c'était un tournoi classique, je me faisais plier à la première partie et je rentrais chez moi après 10 minutes de jeu, donc c'était pas très intéressant. Et du coup, ce qui se passait, c'était que c'était sous forme de 4 parties. Donc la première partie, la partie se déroule normalement, et à la deuxième partie, les gagnants jouent contre les gagnants et les perdants contre les perdants, et c'est au bout des 4 parties, c'était un cumul des points. C'était le goal average en fait qui déterminait le gagnant et le perdant accessoirement. Mais en tout cas, on était sûr de faire 4 parties, de jouer 4 fois, et donc du coup de passer du temps sur le terrain de boule, parce que c'était pour ça qu'on était venu quand même.
Donc il y a quand même une idée de victoire de tournoi, de défaite, mais sûr. La participation reste continue pour tous les acteurs, la même durée en fait.
On plie pas les goals au bout d'un quart d'heure quoi.
Ouais. Alban ?
Ouais, bah après je crois qu'on en avait déjà parlé là dans une émission sur la compétition, mais je crois que c'est vraiment important, notamment à l'école, que la défaite soit pas synonyme d'humiliation, soit pas synonyme de relégation. Enfin, je crois que il faut vraiment inventer des formes de gratification, même pour ceux qui finissent dernier. Quoi. Enfin, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des choses. Alors, j'ai pas vraiment là d'idées très précises, mais il y a des choses à mettre en place pour que voilà que peut-être le charme de la victoire ne soit pas non plus émoussé par quelque chose qui nivellerait tout, mais qu'il y ait une sorte de...
Bah, il peut y avoir une exigence sur le gagnant déjà, sur sa manière de, enfin je sais pas, de célébrer, ouais. De rappeler qu'il a gagné, ouais.
De remercier l'équipe adverse.
Ouais. Je sais pas, moi je sais que justement, étant enseignant avec des jeunes enfants, le moindre jeu, la moindre compétition, tu te rends compte que tout de suite... certains enfants ne peuvent pas perdre. C'est pas possible, tout de suite ça va être un drame alors qu'on fait juste un petit échauffement, on fait juste un jeu en classe, que la défaite est trop compliquée et on ne sait pas si c'est la défaite ou si c'est l'attitude du gagnant.
Ouais, mais je pense aussi qu'il faut changer un peu la représentation de la défaite, quoi. Montrer que y a beaucoup à apprendre dans la défaite. Je dis souvent ça à mes élèves, c'est qu'on a appelé l'école de la réussite. Moi je dis... pourquoi pas l'appeler l'école de l'échec, parce qu'on apprend plus par nos échecs que par nos réussites. Donc, je crois que l'école, notamment, aurait tout intérêt à ne pas se calquer sur le logiciel, en effet, du sport professionnel.
Et après, justement, pour exercer à peu près le même métier que toi, le comportement qui m'agace beaucoup, c'est lors de victoires, alors que lorsque les gamins gagnent, au contraire, ils ont une attitude très exagérée. Enfin, quand on a gagné un petit jeu, un échauffement, ils vont être capables de faire des célébrations, comme ils peuvent voir à la télé, comme des footballeurs, regarder un public qui n'existe pas, lever les bras. Alors que, bon, l'enjeu, c'était juste de savoir, c'était juste de s'amuser. Et là, du coup, la défaite en est encore plus tragique quand on voit l'autre célébrer, exulter, alors que bon, l'enjeu n'était peut-être pas important.
Bah justement, dans tous les sports collectifs qu'on peut voir télévisés, dans le handball, dans le foot, quand il y a une grande compétition, il y a une finale, au moment du coup de sifflet final, les vainqueurs sautent partout, exultent, envahissent. Ils ont le droit d'être très contents, mais ça pourrait quand même être remis en question qu'avant d'exulter, je sais pas, il fallait peut-être saluer, qu'on puisse aussi exulter à un autre moment.
Dans les vestiaires, avec le public, avec mais ça dépend des sports aussi, parce que enfin au football ils exultent à chaque but, on va dire. Là c'est le paroxysme de la chose, mais au rugby par exemple on voit rarement les gens les joueurs exulter totalement. Ils viennent souvent relever l'adversaire qui est à terre parce qu'il est en train de pleurer, parce qu'il est triste.
Oui, il y a des head honneurs qui sont mis en place aussi dans le rugby. Il y a peut-être quelque chose qui est mieux fait de ce point de vue-là sur la défaite.
Ouais, mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que finalement, reconnaître l'adversaire qu'on a battu, c'est reconnaître la qualité de sa victoire. Donc je pense que, il pourrait y avoir une sorte de codification, comme dans le rugby, ce que tu disais, c'est que à chaque fois, il faut, quand on a gagné, rendre hommage à celui qu'on a battu.
Après, dans les sports individuels, moi qui suis, encore une fois, beaucoup le tennis, quand tu regardes une finale de Grand Chelem, généralement, le vainqueur s'effondre, s'allonge sur le sol, il est très heureux, mais il fait en sorte de se relever très vite pour aller serrer la main
de l'adversaire qui l'attend, au final.
Ouais. Et que ça change pas la déception du... Il y a des discours qui ont lieu après, de l'un et de l'autre, qui, généralement, sont des moments assez sympas.
C'est très codifié, en fait.
Ouais, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas besoin dans tous les sports de...
Si, tout à fait.
Sûrement, ouais. Bien, on va s'arrêter là. On va s'écouter maintenant. Alors bon, quand on a décidé de faire une émission sur la défaite, je me suis dit, est-ce qu'on va mettre Loser de Beck?
Oui,
on va le faire, surtout que j'ai appris récemment qu'il n'était plus scientologue, donc c'est possible, on a le droit de le mettre. Beck, Loser.
Splinters. So
Alors, vous êtes en direct sur Gol Volant. On est en train de parler de défaite. Et il est temps d'écouter notre Jérôme National, qui donc va prendre le micro et nous dire ce qu'il a à dire sur la défaite.
Ah, une chronique sur la défaite. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, comment bien expliquer ce qu'est une défaite ? Alors, pour un tennisman français, une défaite, c'est un huitième de finale de Grand Chelem. Ça, c'est à coup sûr une défaite. D'autres exemples. Pour Jean-François Copé, perdre, c'est participer à une primaire de la droite présidentielle. Pour moi, une défaite, c'est une partie du jeu Flamme Rouge face à Maël.
Ah.
Ça, ce serait une... Ou plus certain encore, en football, une défaite pour le Stade Rennais, c'est une finale face à l'en avant de Guingamp. On est trois Guingampais contre un Rennais.
Ouais,
je sais pas pourquoi je suis là.
Bon, alors moi, je tiens à dire ici, j'aime la défaite. Si. Je crois pouvoir dire que j'aime la défaite. Alors, ne vous méprenez pas, ça n'a rien à voir avec du masochisme. Même si dans certains contextes, je n'ai rien contre... Non, allez, une autre fois, j'en parlerai une autre fois. Non, il ne s'agit pas non plus ici de présenter la défaite comme l'école de la vie, et gna gna gna, la vie est une chienne, et gna gna gna, avant d'affronter une difficulté, on se prépare aux déceptions, aux tragédies de la vie en perdant. Non, hein. C'est pas parce que vous faites défoncer par tout le monde lors d'un tournoi de badminton que vous gérez mieux un deuil, une maladie, une séparation. Non, j'aime la défaite parce que j'aime la victoire. Et oui, et là je paraphrase les grands auteurs, j'ouvre les guillemets, pour gagner, il faut accepter de perdre. Et à votre avis, qui a pu dire cette phrase ?
Camus ?
Non, c'est pas Camus. C'est moins intello quand même. Hein.
Ayrton Senna ?
Non, alors c'est un footballeur qui a dit ça, devenu Coco entraîneur. Non, c'est pas un chroniqueur de Goldball.
Je sais pas.
C'est Luis Fernandez. Et il y a plusieurs citations de Luis Fernandez. Voilà. Donc oui, c'est l'ancien joueur de l'équipe de France, joueur puis entraîneur du PSG. Et bien, je crois que ça correspond parfaitement à ma définition de la compétition. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi Luis Fernandez a dit ça, je ne sais pas s'il le sait lui-même d'ailleurs, mais moi ça me parle, parce que oui, j'aime perdre, mais j'aime aussi gagner. Mais surtout, je veux gagner, et le chemin à parcourir pour y arriver est très important pour moi. Il y a peu, suite à une défaite 3-2 lors d'un match de football, au terme d'un match indécis, avec quelques rebondissements et un vrai suspense, je devisais avec l'un de mes coéquipiers, dont je garderai l'identité secrète. Eh bien moi, lui dis-je, je préfère perdre un match serré que gagner un match largement. « Ah bon ?» me répondit-il. « Moi, pas du tout. Je préfère leur coller un 8-1. » Quelques semaines avant, nous avions remporté un match 8-1. Et pour moi, cette victoire m'avait apporté évidemment de la satisfaction, mais m'avait privé de l'indécision, essentiel ingrédient d'une belle compétition. En effet, si le vainqueur est connu à l'avance ou très vite pendant la rencontre, nous n'avons pas affaire à ce qui, pour moi, fait le sel de la compétition. Parce que oui, je suis compétiteur. Alors, il s'agit là d'un gros mot. Pendant des années, c'est un mot qu'il était difficile à formuler pour moi, tant il apparaissait pour certaines personnes de mon entourage tout à fait contradictoire avec le gauchisme que nous échignons à revendiquer. Je vais y arriver. Wow. Et on s'échine toujours à être gauchiste, rassurez-vous. Pourtant, les anti-compétitions revendiquées que je peux côtoyer peuvent faire montre d'une mauvaise foi considérable lors d'une défaite. Par exemple, lors d'un banal jeu de société ou quand lors d'une randonnée, ils ne suivent pas le rythme des plus rapides. Oui, pour moi, il faut être capable de bien perdre. Et on ne peut gagner, vraiment gagner, que si on est capable de bien perdre. On ne peut réellement participer à une compétition que si on est prêt à perdre, même face à un supposé plus faible que soi aussi. Dernièrement, lors d'un tour de Coupe de France de football, une équipe professionnelle fut éliminée par une équipe d'amateurs, comme ça arrive chaque année. Et comme à chaque fois, l'équipe pro éliminée parle de honte, d'humiliation, de faute professionnelle. Pour moi, la faute professionnelle est de ne pas respecter le vainqueur de l'opposition. Mmh. On doit aussi respecter dans la défaite. Et non, ce n'est pas une humiliation de perdre un match de foot. Il y a quelques années, lors d'une rencontre de tennis par équipe, j'avais assisté à une démonstration de mauvaise défaite. Mon frère venait de gagner son match. En 3-7, rencontre accrochée. Comme il est de coutume dans le tennis amateur, on discute du match autour d'une boisson avec son adversaire, juste après. Là, son adversaire explique comment il avait perdu. Alors, tu vois, j'ai perdu le premier set parce que l'horaire du match, 9h, moi, j'aime pas du tout. Bon, j'ai gagné le deuxième. Puis tu gagnes dans le troisième set parce que je reviens de blessure et qu'en ce moment, j'ai pas le physique pour jouer un troisième set. Bon, allez, je dois y aller. Au revoir. Donc, le mec, il lui permet pas de gagner, en fait. Il lui explique comment il a perdu. Il n'avoue absolument pas la victoire de mon frère. Bon, alors, loin de moi l'idée d'expliquer aux autres comment bien perdre. Moi aussi, j'ai craqué face à la défaite et je craquerai peut-être encore. Oui, j'ai collé la honte à mes parents dans un centre de vacances où enfant, j'hurlais et lançais ma raquette par-dessus le grillage du court de tennis de la résidence quand je perdais face à mon frère. C'est mon frère qui agace le tennis. Oui, j'ai craqué, littéralement craqué, un t-shirt de rage seul face à mon ordinateur alors que je venais de perdre un match à Football Manager. Alors c'était il y a longtemps, je vous rassure. Le dessin du t-shirt, c'était quand même un arbitre qui a dressé un carton rouge.
T'avais 5 ans, non ?
Un petit peu plus, mais c'était pas il y a 3 semaines non plus. Non, ce que je souhaite exprimer ici, c'est qu'il y a du beau dans la défaite. Il y a de la classe, de la lutte, de la tragédie. Oui, c'est tragique mon histoire de t-shirt déchiré. En tout cas, beaucoup de beaux récits de sport concernent la défaite. Si vous aimez ça comme moi, je vous recommande un livre. Il s'agit de « Perdant magnifique », paru chez Solar en 2023. Alors j'ai fait des recherches sur son auteur Xavier Garcia. Rien ne m'a permis de certifier qu'il fait partie de la famille de l'illustre Sergent Garcia. On comprendrait mieux qu'il s'intéresse à la défaite avec un aïeul qui perdait tout le temps face à Zorro. Donc le livre « Perdant magnifique » dresse 10 portraits de 10 perdants, ou en tout cas 10 sportifs connus comme perdants. Dans chaque portrait, il parcourt la vie de ces 10 anti-héros. Alors bon, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup question de cyclisme quand même. 4 sportifs sur 10. C'est très bien écrit. On y apprend notamment l'obsession qu'avait Luis Ocaña dans les années 70 pour son rival Eddy Merckx, où l'essentiel était moins pour lui de gagner le tour que de battre celui qu'on surnommait le cannibale. Il y a un portrait très touchant de Vitas Gerulaitis, ancien tennisman, qui était très ami avec Borg, McEnroe et Connors, alors que c'était ces trois bêtes noires et que les trois entre eux ne pouvaient pas se blairer. On y apprend comment Shirley Babashoff a affronté à elle toute seule la délégation des nageuses est-allemandes rendue presque invincible par le dopage d'État. À chaque fois, on y apprend comment des rivalités pouvaient se transformer en amitié ou quels scandales politiques pouvaient se trouver derrière des défaites et donc des victoires. Parce que oui, pour que la défaite soit belle, il faut qu'il y ait justice. Et puis dans ce bouquin, bien sûr, il est question du plus grand des perdants, on en a déjà parlé dans cette émission,
Poupou,
de Raymond Poulidor. Bah oui, le perdant par excellence, c'est Poulidor. Alors j'ai une question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui pousse ma grand-mère, Marie, 91 ans, à regarder à nouveau le Tour de France depuis 2021 ?
Elle espère toujours que...
Van der Poupou ?
Van der Poel. Ah, oui. La présence de Mathieu Van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor. Donc ma grand-mère... Pas une grande fan de cyclisme, tellement fan de Poulidor, rien que la présence de son petit-fils, ça suffit.
Ouais.
Et puis c'est lui qu'elle encourage.
Évidemment.
Je sais pas si je parcourrais, si j'étais dans la course, je sais pas si elle serait pas pour. Donc dans son livre, Xavier Garcia consacre un chapitre particulièrement émouvant à Raymond Poulidor. J'ai été très touché, vraiment, ça m'a beaucoup ému, par celui qui deviendra une icône, le chouchou du public, qui représentait la France rurale, agricole, dure au mal, peu plaintive. Satisfaite de ce qu'elle a. Ma grand-mère venait un peu de cette France-là. Poulidor avait réussi à transformer sa rivalité avec Anquetil en amitié. Poulidor, c'était le mec capable de dire « Si j'avais gagné le Tour, personne ne se souviendrait de moi. » Comme si sa plus grande victoire était ses défaites sur le Tour de France. Rien que pour le récit sur Poupou, je vous recommande « Perdant magnifique » de Xavier Garcia aux éditions Solar. Et oui, il y a aussi un chapitre consacré à Thibaut Pinot.
Goal volant. Émission de sport et société, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
Allez, c'est l'heure de la troisième mi-temps. Go!
Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend?
De bière.
Alors pour cette troisième mi-temps, je vous propose un quiz La France, ce beau pays de la lose, consacré aux défaites et losers mythiques du sport français. Principe assez simple, je vous déroule la question et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. Un point par question, mais attention, pour remporter ce jeu, vous ne devez pas être celui qui a le plus de points à la fin, mais celui qui arrivera deuxième.
Bien vu ça.
Ça vous va? C'est parti. Allez, catégorie arroseur arrosé. Nous sommes en 2017 au tournoi de tennis de Monte-Carlo.
Lors d'un match du premier tour, le tennisman français Benoît Paire, connu pour son talent mais surtout aussi pour ses gestes et propos déplacés, se trouve en difficulté et s'énerve face à son adversaire.
Le mec, il est complètement nul. Il joue à 2 à l'heure, il est nul. Il est nul, moi je suis peut-être vers 6-2, 3 ans. Le mec est nul, j'ai juste à jouer 2 secondes, je pense que je gagne 6-2, 6-2. 2 secondes. Il est complètement nul.
C'est fou. Bon alors, vous en doutez, Benoît Paire a bel et bien été battu, 6-2, 6-3, et a été éliminé du tournoi.
Jérôme.
T'as même pas la question, Jérôme.
C'est qui est l'adversaire?
Ouais, qui est ce gros nul qui l'a battu?
Alors, c'est pas Tommy Haas?
C'est exactement Tommy Haas. Un point pour Jérôme.
Je suis deuxième.
Ex aequo.
Allez, catégorie, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis un club de rugby français et j'ai l'honneur de disputer ma première finale du top 14 le 25 juin 2021 face au Stade Toulousain. Malheureusement, pour cette première finale,
Jérôme.
Pour cette première finale de notre histoire, on s'incline 18 à 8. Ce n'est qu'une défaite, vous me direz, mais elle a un goût encore plus amer depuis que tout le monde se fout de notre gueule, car le club avait fait floquer juste avant un bus impérial avec le logo du club et la mention champion 2021.
Oh le con! Oh le con! Il est con. Hein.
De quel club parle-t-on?
Je voulais parler, je pense que c'est La Rochelle, mais j'y connais pas grand-chose en rugby.
La Rochelle, ils ont gagné.
C'est le Stade Rochelais, ouais.
Ah ouais,
tout à fait.
Autant pour moi.
C'est toujours deuxième, elle, tout va bien.
Yes.
Alors Jérôme, catégorie monument national, avec un loser un peu inattendu dans ce quiz. Allumez le feu, allumez le feu. Et oui, notre Johnny National n'a pas fait qu'allumer le feu ou des clopes, il a aussi allumé le moteur, en l'occurrence celui d'un 4x4 Nissan à l'occasion du rallye Paris-Dakar 2002. 9319 km qui ne seront pas de tout repos pour notre Johnny et son copilote.
On a tout eu. Voilà, je me suis foulé le poignet dans les dunes, le volant, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux, on a cassé encore un truc, le ressort à droite, plus toute la roue. On a recommencé 20 fois, puis on ne retrouvait plus la route.
Résultat, l'idole des jeunes arrivera...
Avec
bourré de fatigue. Il arrivera hors délai sur plusieurs étapes, ce qui nous vaudra de sa part une belle lapalissade.
De toute façon, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Bon, on va pas être trop méchant, parce que notre Johnny n'est pas tant un loser que ça, finalement. Il verra bien le bout du rallye en arrivant 46e sur 117 partants. Mais alors justement, ce bout du rallye Paris-Dakar 2002, pouvez-vous me dire où il a eu lieu?
Au Chili. Jérôme.
Les autres, est-ce que vous avez une idée?
Aucune.
Non, aucune.
Mais en Amérique du Sud, ça
Argentine.
Paraît pas...
À Dakar. C'était une question piège. Catégorie dérouillée, ou si vous préférez branler, déculotter, racler. En 2015, le 15 de France de Philippe Saint-André est éliminé en quart de finale du mondial de rugby par des All Blacks très très en forme.
Qu'est-ce qu'a fait les équipes?
C'est moi pourquoi?
Ouais, parce que j'arrête pas de perdre.
Est-ce que vous pouvez me donner la différence de points entre les scores des deux équipes lors de cette déculottée? Allez, à deux points près, je suis sympa.
Maël, 57.
Alban, 50.
Jérôme, 35.
C'est Alban qui remporte ça, c'était 49 points. Le score était de 62 à 13, avec 9 essais encaissés.
Oh là là.
A noter que c'est pas l'écart le plus important qu'ait connu le 15 de France, puisque celui-ci, Cocorico, a décroché une victoire historique contre l'Italie en phase de poule de la Coupe du Monde 2023. Avec quel écart cette fois-ci?
Contre l'Italie? Et ce serait un record.
Maël.
79.
Plus. Le juste prix.
C'est la victoire, c'est ça?
Ouais.
L'écart toujours.
60.
Ouais. Et bah, Alban, t'es pas très loin, mais c'est quand même. C'était 53. Le score était de 60 à 7 pour 8 essais.
Okay. Ouais, mais c'est pas un record. Parce que...
C'est l'écart, si.
Ah oui,
pour la France.
Ouais, ok.
Catégorie loser magnifique. Et c'est justement le surnom duquel Laurent Fignon s'est retrouvé affublé en 1989 après le Tour de France. Mais c'est même pas quelle question je vais poser. Où est arrivé le Paris-Dakar, quoi.
Pardon, mais tu peux
Dakar.
Continuer la question.
Dakar.
C'est juste j'ai la main, quoi.
Au départ du contre-la-montre final, Lolo possède 50 secondes d'avance sur son rival. Et pour un contre-la-montre de 22 km, c'est plutôt immense. Et donc l'ambiance est déjà à la préparation des festivités du sacre de Fignon sur ce tour. Mais c'était sans compter sur la blessure qui va énormément gêner notre coureur. On parle alors de furoncle au cul ou de douleur aux testicules. Bref, son rival performe, Fignon s'accroche, il ne doit pas perdre plus de 2 secondes au kilomètre. Mais malheureusement, il franchit la ligne 8 secondes trop tard. 9 secondes en fait, il aurait aussi perdu s'ils avaient été ex aequo, ce qui aurait été le summum de la lose.
3, 2, 1, top! C'est fini! Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert.
Moment terrible pour Laurent Fignon, puisqu'il faut penser à lui.
Maman terrible.
Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les Champs-Élysées.
Laurent est allé pleurer dans son coin, comme une merde,
sur son trottoir, sur les Champs. Bon alors, qui est ce petit saligo qui a empêché Fignon de remporter le Tour de France pour 8 minutes et 8 secondes ?
Greg LeMond.
Greg LeMond.
Parce qu'il était plus pressé. Pardon.
Tu sors même.
Ouais, Greg LeMond qui en plus avait suscité une grosse polémique en courant dès la 5e étape avec un guidon de triathlon.
Ah oui. Alors,
ce qui était interdit par le règlement, mais qui sera quand même validé à l'issue de l'étape par le jury.
Ah oui. Ah, il y a un règlement et puis après, tant pis. Ah oui.
Ça dépend qui gagne.
On passe à la catégorie CPT ou blessure à la con.
Ah.
Peut-être que vous vous souvenez du capitaine des Bleus en handball en 2000 avant les sélections pour, les championnats, pour le championnat d'Europe de hand. Jérôme Fernandez va peinard se prendre une petite douche, mais il confond les robinets froids et chauds. Il se brûle au troisième degré et doit se faire greffer de la peau à la main et au mollet. Ou encore côté foot, sélectionné pour l'Euro 2004, la blessure à la con de Steve Marley qui tire un peu trop fort l'élastique de son accréditation qui lui saute pile dans l'œil, occasionnant une déchirure de la cornée et un passage de l'Euro sur le banc.
Elle est géniale.
Il y a donc parfois des blessures qui empêchent de participer à une compétition et donc souvent évitent de s'infliger une énième défaite. Surtout quand on parle du tennis français. C'est ce qui est arrivé à Julien Bento juste avant le début de l'Open d'Australie en 2011. Est-ce que vous pouvez me dire quelle blessure à la con l'a empêché d'y participer et donc de ne pas y échouer ?
C'est une victoire en fait peut-être.
Je sais pas, j'ai jamais entendu cette histoire.
Non, je connais pas non plus.
Alban non plus ?
Non, aucune idée.
Eh bien, figurez-vous que peinard, un soir, Bento et Nicolas Mahut chillent dans un petit resto asiatique. Ce qui implique usage de baguettes. Baguettes que Bento sait moins bien manier que les raquettes. Et il se coupe le tendon du pouce. Pas pratique pour tenir la raquette.
Avec une baguette ?
Avec une baguette.
Il y avait aussi un coureur cycliste qui s'était, en ouvrant une bouteille de Prosecco sur le Giro, il s'était pris dans l'œil et il avait été obligé d'arrêter un coureur érythréen, je crois, il n'y a pas très longtemps.
Ah oui, oui, oui.
Guermey, c'est ça.
Catégorie record du monde de la loose. On s'en doute tous, détenir un record du monde marque toute carrière sportive. Alors du coup, est-ce que le summum de la loose, ce ne serait pas de détenir le record du monde du record du monde le plus court de l'histoire ? Et bien, Cocorico encore, c'est un Français qui détient ce triste record du monde. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui, ou du moins dans quelle discipline ?
Ah oui, c'est un record du monde qui n'a pas duré, en fait, c'est ça ?
Le record du monde le plus court de l'histoire.
Il l'a, il le perd tout de suite après.
Du saut à ski ?
Saut à ski pour Maël.
La perche.
La perche ?
Aucune idée, déjà.
Et bien, c'est de la perche, Jérôme. C'est Thierry Vigneron.
Ah, j'avais déjà parlé de Thierry Vigneron, oui. Qui n'a pas de retraite.
Lors du meeting d'athlétisme de Rome en 84, le perchiste français Thierry Vigneron est dans une forme olympique. Et lors de ce concours, la concurrence est costaud avec l'Ukrainien Sergei Bubka. Et soudain, Vigneron balaye Bubka en pulvérisant le record du monde avec un saut à 5,91 m. Il devient quintuple recordman du monde de la discipline au milieu d'une foule en délire. Mais même pas le temps de prendre de photos que dès le saut suivant, soit moins de 15 minutes plus tard, Bubka passe les 5,94 m. Et Vigneron rentre dans la légende avec ce record du monde le plus court de l'histoire, moins de un quart d'heure. Belle perf.
Pas de bol.
Et enfin, pour finir sur une note d'espoir, catégorie défaite salvatrice. Car oui, parfois une défaite peut être l'occasion de rebondir et de tout déchirer derrière. Je suis une athlète française née en 1992 et je débute ma carrière sportive par le patinage artistique. J'ai alors tout pour devenir une grande de ce sport. Je suis une fonceuse et je ne veux devoir mes victoires à personne, et encore moins mes défaites. Mais un jour, lors d'une compétition, je suis totalement lésée par les juges et je finis avant-dernière. Ils avaient classé la fille de l'entraîneur devant moi, ça m'a dégoûté. J'ai jeté mes patins et je me suis lancée à corps perdu dans le vélo. Et ça m'a plutôt réussi. Championne du monde sur route en 2014, championne du monde de cyclocross et de VTT en 2015, 2019, 2020, 2022, championne d'Europe de VTT en 2021. Il ne manque plus que l'or olympique que j'espère obtenir cet été au JO. Je suis Jérôme.
Non, c'est Alban d'abord, il levait la main avant moi.
Ah, fair play Jérôme. Alors je dirais que c'est Pauline Ferrand-Prévot.
Prévot.
Tout à fait. Bien joué, Alban.
J'ai assuré ma deuxième place. Tu
as assuré ta deuxième place. Et donc, tu as remporté ce quiz, Alban.
J'ai pas gagné.
C'est nul comme jeu.
J'avais pas bien compris les règles.
Belle défaite, les gars.
Bien, merci Mathieu pour ce petit quiz de la loose. Bien aidé par un bouquin.
Le bouquin que je vous conseillais, ouais.
Ouais. Mon conseil cul. La Bible de la loose du sport français. Bien, merci à tous pour cette belle émission sur la défaite.
Ouais, moi je voudrais peut-être conclure en disant qu'en parlant de défaite, on a parlé d'amour.
Ouais.
L'amour de la fragilité, l'amour de ce qui ne vint pas tout le temps, ce qui ne gagne pas tout le temps.
Mm-hmm.
Voilà, C'est beau, je suis assez content.
Ça te paraît assez bien de rappeler ça aussi.
Voilà.
La possibilité d'échec. Bien, et ben à très vite pour un nouveau numéro de Gaulle Volant.
À
plus.
Bientôt.
Salut.
Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tendre les reins, voilà.
Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le bon man.
Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
J'ai...
Ouh.
Oh.
Là.
Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mais un rouge là-dessus. Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi, je vous le dis.